Bonjour Caroline Brouet et bonjour à tous.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Mercredi 1er octobre, sur un trottoir près de la gare SNCF de Grenoble, en plein milieu de l'après-midi, un homme d'origine guinéenne aborde la police municipale. Il explique qu'il est arrivé en France clandestinement 3 jours auparavant. Il n'a rien à manger ni à boire, il est perdu et ne sait pas où aller. Il demande de l'aide. La police appelle alors le SAMU. Ensemble, ils installent autour de cet homme un périmètre de sécurité d'une 20aine de mètres carrés, délimité par une bande rouge et blanche. Ils équipent l'homme d'un masque en papier blanc et de gants chirurgicaux. Ils le laissent assis par terre contre un grillage pendant de longues heures, sous le regard des passants interloqués. L'homme prostré attend d'être reconnu non contaminé par le virus Ebola. En fin de journée seulement, on lui porte secours et on le déclare hors d'état de nuire. À Roanne, début septembre, une employée municipale est sommée de rester chez elle et mise en quarantaine par son employeur pendant 21 jours pour avoir passé ses vacances d'été en Guinée. Elle n'a pas contracté la maladie ni ne présente aucun symptôme. L'agence régionale de santé en Rhône-Alpes estime que si son cas nécessite une surveillance, il ne justifie pas de quarantaine. Mais la femme est en contact avec des enfants et l'employeur préfère être très prudent. Jeudi 9 octobre, enfin, un bâtiment de la DAS de Cergy-Pontoise dans le Val d'Oise est évacué et bouclé vers 16h à la suite du malaise d'un jeune Africain arrivé en France le 1er octobre après être passé par la Guinée. Il était accompagné de 3 autres personnes, elles aussi africaines, dont l'une au moins présentait également des symptômes grippaux pouvant faire penser au virus Ebola. Le confinement dure plusieurs heures. Sur un total de 480 signalements, plus anodins ou plus sérieux pour Ebola, qui ont été répertoriés par l'Institut de veille sanitaire depuis le mois de juin en France, 18 cas ont été classés comme cas possibles. Un seul d'entre eux, ce week-end, une employée d'une agence de l'ONU contaminée en Sierra Leone a été placée à l'isolement dans un hôpital militaire à côté de Paris. Un numéro vert répond aux inquiétudes des citoyens et des professionnels. Entre le principe de précaution évidemment nécessaire et l'Ebola paranoïa, difficile de trancher. Quelques histoires aujourd'hui sur la contagion de la peur entre ces deux attitudes racontées par Zineb Drieff jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture. Évidemment, Ebola et la contagion de la peur.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
C'est une rue tranquille de Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Une rue où il ne se passe habituellement rien d'exceptionnel, en tout cas pas assez pour faire venir les photographes et les caméras de télévision. C'était le premier mardi du mois d'octobre. Madame Touré s'en souvient très bien. La veille, son fils aîné de 9 ans faisait sa rentrée scolaire en décalé, un mois après les écoliers de Boulogne-Billancourt. Thierno avait une bonne excuse. Il revenait d'un long voyage en Guinée chez ses grands-parents. D'après Madame Touré, c'est très courant. Beaucoup d'enfants guinéens nés en France séjournent plusieurs semaines, parfois plusieurs mois au pays.
Depuis 5 ans, on est là, ça a été tout ce temps, jusqu'à ce que je décide de ramener mon fils au pays pour qu'il apprenne un peu ma culture, parce qu'il n'y a pas que la culture de la France qui compte. Il y a aussi le mien et celui de mon mari. Mais comme à cause de ce maladie, il n'y avait plus d'école en Guinée. Les enfants étaient à la maison à ne rien faire. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de le ramener comme ça. Il serait pas en retard. Il serait pas pénalisé pour rien du tout.
Ce matin-là, Madame Touré réveille donc ses 3 enfants. Elle habille les plus jeunes, ils petit-déjeunent, puis ensemble, ils parcourent les 100 mètres qui séparent leur appartement de l'école de l'ancienne mairie. Il n'est même pas 8h. Et c'est là, devant le portail de l'école, que Madame Touré les voit. Les photographes, les caméras de télévision, les parents d'élèves interviewés. Elle ne saisit pas immédiatement, puis elle entend ces mots. Ebola et Guinée. Alors elle se souvient que la veille au soir, Thierno lui avait rapporté une dispute avec ses camarades. Sur le moment, elle n'y avait pas accordé plus d'importance que ça.
Quand il a repris l'école, il a passé toute la journée là-bas. Le soir, quand il est rentré, il s'est plaint. Comme quoi les enfants le traitaient d'enfant malade. Il est venu avec l'Ebola. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, oui. J'ai dit, mais c'est pas grave. Le lendemain, mardi, j'avais prévu d'aller voir la directrice pour lui en parler. Vous pouvez imaginer la surprise que j'ai trouvée là-bas, les caméramans, les journalistes et les gens à côté qui racontaient n'importe quoi. Il y a 3 enfants qui viennent de la Guinée, ils ont Ebola. Et moi, j'étais juste à côté d'eux. Ils ne savaient pas que j'étais la mère.
Devant les micros tendus, le ton monte un peu vite. Certains parents d'élèves expliquent aux journalistes avoir retiré leurs enfants de l'établissement. Ils réclament la mise en quarantaine de Tierno jusqu'aux vacances de la Toussaint. La date n'a pas été choisie par hasard. La durée d'incubation, c'est-à-dire le temps écoulé entre l'infection par le virus et l'apparition des premiers symptômes, varie de 2 à 21 jours. Après la Toussaint, tout risque serait écarté.
Si la directrice avait pris contact avec moi dès au début, dès qu'elle a vu que les parents commençaient à s'inquiéter, je suis parent, je peux comprendre. Je peux retirer mon enfant le temps nécessaire qu'il fallait pour assurer les parents.
Pour éviter la psychose, la directrice prend rapidement la parole pour dire « Ne vous affolez pas, tout est sous contrôle ». Une infirmière prend la température des enfants de Madame Touré tous les jours, 3 fois par jour. Il n'excède pas les 37 degrés. On dépêche même sur place une inspectrice pour calmer les parents. Elle répète ce que tous les médecins disent. Tant qu'il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de contagion.
Mes enfants ne sont pas malades. Mes enfants n'ont rien du tout. Parce que pendant 21 jours, l'infirmière de l'école prenait la température de mes enfants. Ils n'ont rien. Ce qui veut dire qu'ils ont fait ça juste pour humilier ma famille. Sans preuve, sans rien.
Mais rien n'y fait. L'affaire gonfle. La peur gagne les familles. À la télé, on parle alors d'une victime d'Ebola en Espagne, peut-être même en France. Alors les parents s'obstinent et les journalistes reviennent, tous les jours. Dans la cour d'école, ça dégénère. Dans la rue, d'ordinaire si tranquille, on ne parle que de ça.
Aujourd'hui, dans Boulogne, on est humilié. J'ai dû arrêter mon travail parce que j'arrivais pas à supporter ça. Et ce qui m'a énervé le plus, au travail, il y en a qui me fuient. Je suis animatrice. J'ai dû arrêter le travail. Quant à les enfants, ils sont traumatisés. Ils veulent plus aller à l'école. Je les oblige à aller à l'école parce que c'est normal. Les enfants doivent aller à l'école. Depuis ça, il y a les enfants qui les fuient, qui ne s'approchent pas d'eux. Parce qu'apparemment, ils les traitent d'Ebola. Les enfants ne savent même pas. Même moi, je ne savais même pas ce que c'était Ebola. Bien sûr, je regardais à la télé, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Mais maintenant, je regarde que ça. Comme on dit à mes enfants, les enfants Ebola, moi, maintenant, je dis partout, je m'appelle Mère Ebola.
Quand j'ai rendu visite à la famille Touré pendant les vacances de la Toussaint, le délai d'incubation du virus était dépassé. Tierno n'a bien sûr jamais été malade.
Si on avait su qu'on le ramenait ici, il aurait été brisé comme ça et détruit comme ça, on l'aurait laissé là-bas. Normalement, quand on ramène les enfants à l'école, c'est parce qu'on est sûr qu'ils sont protégés. Je t'ai pas préparé à ça. Et du coup, qu'est-ce que je pouvais faire? Ça nous a tombé dessus.
Alzamma tabiti, ala bitin zamma.
Service d'information du ministère de la Santé, Géraldine, bonjour. Oui. Quelle est votre question par rapport à Ebola? Quel est l'examen qui lui a été demandé par son médecin traitant? D'accord. Alors, la première question, donc ce patient, donc cette personne qui s'est présentée chez vous pour ses prélèvements ce matin, sanguin, elle revenait du Congo, elle vous a donné à peu près les dates? D'accord. Et donc là, vous, en lui faisant ce prélèvement, vous avez constaté qu'elle avait de la fièvre, cette personne? D'accord. Alors, pour vous rassurer, vous avez utilisé vos gants, vous avez utilisé le protocole habituel pour faire vos prélèvements? D'accord. Sans gants? D'accord. Alors, ce que vous allez faire, vous allez simplement appeler le 15, hein, signaler ce cas. Déjà, même s'il toussait en vous regardant, il faut savoir que Ebola ne s'attrape pas au niveau de l'air, hein, donc il n'y a pas de contamination aérienne. Pour vous rassurer, le Congo n'est pas concerné. Il faudrait que vous appeliez le 15 pour signaler donc ce prélèvement effectué et l'état fébrile du patient, sans plus. Hein. Si le 15 estime qu'elle doit contacter le patient par la suite, elle prendra le relais. Et quant à vous, elle vous dira donc quel est donc le protocole par rapport à vous si vous êtes inquiète. D'accord? Voilà. Et si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à nous rappeler quand même. Hein. On reste là jusqu'à 21h. Tous les jours, on pourra répondre à vos questions.
Je suis partie en Sierra Leone au mois de mai dernier. Pour travailler pour une ONG américaine en Sierra Leone, en Guinée et au Libéria. Donc je travaille sur un projet de violence faite aux enfants dans ces trois pays. Bon, quand je suis partie, c'est vrai qu'il y avait déjà Ebola, mais la problématique n'était pas... Enfin, disons que l'épidémie n'était pas encore aussi large que ce qu'elle est maintenant. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup pu vivre l'évolution un peu de l'épidémie. C'est venu progressivement, Ebola. Donc, on a été plongé au petit à petit dans le bain. Mais c'est vrai que de plus en plus, tous les jours, on avait des histoires assez affreuses de cas, de gens qu'on connaît plus ou moins. Et ça, c'est extrêmement difficile à gérer au niveau du stress. C'est-à-dire que moi, je ne travaillais pas sur Ebola, par exemple. Mais toutes les activités ont été baignées, si je peux dire, dans Ebola. Et puis dans la gestion des risques, notamment pour mes équipes. Mais en plus de ça... Ça prend toute la vie sociale, toute la vie entière, puisqu'on est obligé de faire attention. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ben, on ne se touchait plus avec les gens, donc on ne serre plus la main, on ne se dit plus bonjour. On a de plus en plus de peurs aussi qui viennent si on doit prendre un taxi, si, quand on se promène dans la rue, parce que potentiellement, il peut y avoir des gens qui sont malades. Et donc, moi, au départ, je n'étais pas très stressée. C'est-à-dire que j'étais beaucoup dans une démarche assez rationnelle, de dire, bon, vraiment, on ne risque rien. Et puis quand même, petit à petit, en fait, ça vient. Parce que aussi, j'ai eu des réactions, moi, par exemple, de mes propriétaires de là où je vivais à Freetown, en Sierra Leone, qui m'ont dit, bon, oui, t'es allé en Guinée, t'es allé au Libéria, tu travailles pour une ONG, ça veut dire que tu travailles forcément sur Ebola. Alors si t'es malade, si t'as de la fièvre, on te mettra dehors, quoi. On n'a pas d'autre choix que de te mettre dehors parce qu'on peut pas prendre des risques. Ça devient de plus en plus difficile. Y a aussi le fait que, on a peur d'être malade. Parce que, en fait, même si on a peu de chance d'avoir Ebola, tous les symptômes, c'est-à-dire la fièvre, la diarrhée, le vomissement, ça peut être plein d'autres choses, et notamment le palu. Et donc, moi, j'avais vraiment peur d'avoir le palu, parce qu'on ne pouvait pas aller à l'hôpital, et parce que si je déclarais une fièvre ou quoi que ce soit, eh ben, potentiellement, je pouvais être prise comme étant malade d'Ebola, et donc être... Ouais, on a peur de se retrouver en quarantaine, c'est-à-dire... Je savais, moi, que si j'avais une fièvre ou quoi que ce soit, déjà, je savais même pas qui appeler. C'est-à-dire, qui viendrait? Il n'y avait plus de médecins. Mes collègues, je pense qu'ils auraient eu peur. Et puis, la procédure pour Ebola, c'est le temps d'être testé. On est mis dans une pièce en isolement jusqu'à ce qu'on soit testé positivement ou négativement sur Ebola. Et ça fait extrêmement peur. Et si on est positif à Ebola, plus personne nous touche. C'est des gens qui sont en combinaison. Enfin, vous avez vu les images. Enfin, c'est flippant, quoi. On n'a juste pas envie de ça. Et alors, en plus, quand on est seul à l'étranger, et ben, on est sûr que on ne reverra pas sa famille, qu'on ne reverra pas ses amis. C'est vraiment la peur de, d'être malade tout seul et peut-être de mourir tout seul, quoi. Ouais. Le propre d'Ebola, c'est vraiment que ça touche à des choses qui vont contre ce qu'est l'être humain. Et donc, voilà, qui engendre des peurs qui sont peut-être irrationnelles, notamment en France, ouais.
Hier soir à Cergy-Pontoise, le dispositif est impressionnant. Le jeune homme ayant voyagé en Guinée n'était finalement pas contaminé par le virus Ebola, mais toute une chaîne de surveillance sanitaire est entrée en jeu. Elle commence en Afrique, dans tous les pays touchés par le virus, dont la Guinée. Chaque passager est contrôlé avant de prendre un avion. Prise de température, questionnaire de santé, au moindre doute, il ne sort pas du pays.
Et je suis rentrée en France au courant du mois de septembre. J'ai été un peu perturbée à mon retour parce que, de la part de ma famille, déjà, je n'avais pas perçu à quel point ils étaient stressés de la situation. C'est-à-dire que quand j'étais là-bas, j'ai essayé de beaucoup les informer au jour le jour, leur dire que je risquais rien, qu'il n'y avait pas de raison d'être stressée pour moi, que voilà, ne travaillant pas dans le domaine médical, j'avais peu de risques de contagion. C'est vrai que je suis rentrée, chose complètement étonnante, mon père est venu me chercher à l'aéroport, ce qui n'est pas du tout dans ses habitudes. Et je me suis rendu compte qu'il était vraiment, vraiment très très mal. Enfin voilà, je l'ai vu avec les larmes aux yeux en venant me chercher. Donc j'ai vraiment compris qu'il y avait un décalage entre ce que je vivais là-bas et ce qu'eux vivaient en me sachant dans une zone Ebola. Donc ça, c'est vrai que ça m'a un peu perturbée parce que je n'avais pas compris en fait qu'ils étaient à ce point angoissés. Après, j'ai eu d'autres réactions qui ont été aussi un peu particulières. C'est-à-dire que j'ai eu des amis qui étaient un peu stressés de me voir parce qu'ils avaient peur que je puisse avoir Ebola et que donc je puisse transmettre la maladie, notamment des amis qui avaient des enfants en bas âge. Donc ça a été un peu dur pour moi de vivre ça parce que clairement, moi j'étais très sensibilisée sur les risques de contamination. Je savais exactement que voilà, je ne pouvais pas avoir Ebola, ou si je l'avais, en tout cas, si j'avais il fallait que j'aie des symptômes pour pouvoir être contagieuse, donc il n'y avait pas de risque. Mais voilà, j'ai perçu qu'il y avait des peurs un peu irrationnelles. D'autres amis aussi, une autre amie qui est rentrée de Sierra Leone aussi, en même temps que moi, c'est ses parents qui m'ont dit « tu devrais être en quarantaine ».
France Culture, les pieds sur terre.
Pendant les 21 jours d'incubation, cette période qu'elle appelle ses 21 jours de carence, Hélène fait tout pour éviter à son entourage de paniquer.
On est un peu dans ce décalage d'avoir vécu vraiment dans un endroit où il y a des risques, clairement, de contamination, et avec des gens qui concrètement meurent d'Ebola, et arriver dans un pays où il n'y a pas de risque, mais où les peurs sont complètement un peu disproportionnées, quoi. Mais le décalage est dur à vivre, en fait. C'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi aussi hein, pendant les 21 jours de carence, par exemple. J'ai été un peu malade, c'est-à-dire que j'ai eu une bronchite. Je ne suis pas allée chez le médecin, par exemple. Donc, j'avais pas de fièvre, je savais que ce n'était pas Ebola, mais juste parce que je me suis dit, j'étais très mal à l'aise par rapport au médecin de venir en leur disant je viens d'une zone Ebola et de le forcer à me toucher. Je sais quel type de peur ça pouvait avoir. Voilà, j'avais déjà tout mis dans ma tête, si j'avais une fièvre, quel hôpital je contactais, comment je faisais, comment est-ce que je gérais la situation si jamais j'avais ces signes d'Ebola, quoi. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai crié sur sous les toits que je rentrais de Sierra Leone. C'est-à-dire que si je partais en soirée ou quelque part. Voilà, j'ai fait l'expérience, en fait, de dire je rentre de Sierra Leone et tout de suite, j'avais des espèces de peur. Alors, si en plus, tout ça, j'avoue que là, c'était fini pour moi, quoi. Je sentais que les gens se mettaient complètement... me mettaient à l'écart, quoi. Donc, Je pense que c'est ce qu'on vit quand on est discriminé ou pointé socialement. Enfin, voilà, on a beaucoup fait le rapprochement avec le VIH et je pense que c'est un peu ce qui a été vécu hein, de la part des personnes qui pouvaient éventuellement avoir le sida ou qui l'avaient. Je pense qu'Ebola, on est un peu sur les mêmes types d'exclusion sociale. C'est assez dur, ouais, comme un stigmate, en fait. C'est pas évident à vivre, parce qu'en plus, moi, j'avais envie d'en parler, en fait, en rentrant. J'avais envie de... Non pas forcément de parler de l'expérience que moi, j'avais, mais j'avais envie de faire part de ma colère, en fait. Parce que quand j'étais là-bas, j'étais en colère. J'étais en colère contre le monde, de dire comment est-ce qu'on peut laisser mourir les gens. Et j'avais envie de dire, c'est ça ce qui se passe là-bas, concrètement. Les gens sont en train de mourir, il faut qu'on... Et en fait, je sentais qu'il n'y avait pas l'espace, en fait, pour le faire. Ou pas toujours l'espace pour le faire. Parce que... On avait plus envie de parler de, ouais, de la peur d'Ebola ou de plutôt que ce que vraiment les gens vivent là-bas. Et donc ça, c'est un peu... Ouais, je l'ai assez mal vécu dans ce sens-là, oui. Donc voilà, maintenant, c'est vrai que je pense plus... Bizarrement, j'ai envie d'y retourner, en fait, parce que je trouve que c'est horrible ce qui s'y passe et qu'on doit les aider dans ce qu'ils sont en train de vivre, quoi.
Service d'information du ministère de la Santé, Laurent, bonjour. Alors, sur le territoire français, par rapport à une propagation, il y a, je dirais que le risque est infime, madame. Non, il n'y a pas eu de cas en France d'Ebola. Il y a une personne, une infirmière, qui a été ramenée sur le territoire français parce qu'elle avait attrapé Ebola en faisant sa mission dans un des pays atteints. Elle a été soignée, elle est guérie, et il y a eu, disons qu'il y a un fort taux de mortalité, c'est entre 45% et 70%. Il y a eu ensuite un deuxième cas supposé, parce que c'était une infirmière qui travaillait avec, sur cette infirmière-là, et qu'elle a eu de la température, et finalement, c'était pas un cas avéré. Voilà, c'est tout ce qu'il y a eu au niveau de la France, il n'y a eu aucun cas d'Ebola.
Je vais vous souhaiter une bonne journée, madame. Au revoir. Service info, on a rapproché. Le flux qu'on a depuis 15 jours n'est pas le même que depuis le 11 octobre. Le 11 octobre, c'était vraiment panique à bord. Et en une semaine, ça s'est calmé. Puisque l'information, la communication était là. Donc, c'est vrai que les médias ont joué le relais. Il y a eu une insistance sur la communication, sur expliquer qu'il n'y a pas de contamination possible, notamment par l'air. Et ça nous a beaucoup aidé aussi pour essayer de décanter la situation. Et donc là, en général, maintenant, les gens qu'on a, c'est vraiment pour avoir de l'information, quoi. Surtout pour ceux qui voyagent. On a beaucoup de personnes qui ont besoin de se déplacer, qui ont pris des engagements par rapport à... des situations où ils doivent aller dans un pays pour affaires, d'autres en vacances par exemple, des tours opérateurs aussi, donc par rapport à ce type de personnes, donc ils appellent ici pour savoir concrètement quelle est la situation pays par pays. C'est plutôt le flux qu'on a là à l'heure actuelle. Dans les gens qui étaient paniqués avant, on n'en a plus trop, quoi.
Je vous remercie d'avoir patienté. Il n'y a pas d'information particulière concernant l'île Maurice. Ça se doute de toute façon... Le Ebola se situe bel et bien en Afrique. Hein. Il n'y a pas eu de transport actuellement, à part quelques pays qui ont eu des cas du fait de personnes qui sont venues soigner.
Thank you.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, Ebola et la contagion de la peur. Un reportage de Zineb Drieff réalisé par Perry Legras, au mixage Claude Niort, l'attaché de production c'est bien sûr Sandrine Chaperon. Merci à la famille Touré, à Alexandra Gonzalez, à Hélène Delomez, à Bénédicte Delataille et à Cédric Dreba. Vos commentaires, vos réactions, des histoires, des témoignages peut-être, on les attend toujours avec impatience sur notre site franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur les fameux réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Twitter, où nous avons un compte aux Pieds sur Terre, France Culture. Voilà, en attendant de vous lire, je vous souhaite une bonne après-midi sur France Culture.